Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 4 août dernier, une double explosion d'une violence inouïe plongeait Beyrouth dans la désolation. Près de 200 morts, plus de 6500 blessés, le port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise dévastés. Une catastrophe venue s'ajouter à la crise économique, politique et sanitaire sans précédent que traverse un Liban miné par la corruption, le clientélisme et le népotisme. À l'origine de tous ces maux, le système confessionnel, désormais rejeté par une grande partie de la population qui, depuis octobre, manifeste pour exiger le départ de toute la classe politique. Venu à Beyrouth le 6 août, témoigner du soutien de la France, Emmanuel Macron avait promis de revenir et de s'impliquer pour que le Liban entame les réformes indispensables à sa survie. Parole tenue, le président français est arrivé lundi dans la capitale libanaise avec pour mot d'ordre l'exigence sans l'ingérence. Mardi, il annonçait avoir obtenu de l'ensemble des forces politique libanaise, un engagement sur un calendrier et un agenda, à commencer par la formation sous 15 jours d'un gouvernement de mission, entre guillemets. Alors comment est perçue au Liban l'initiative française? A-t-elle des chances d'aboutir? Qui composera le fameux gouvernement de mission? Les leaders des communautés religieuses sont-ils vraiment prêts à accepter un État laïque? À quel horizon? On en débat avec nos trois invités. Nour Kilzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en droit international et membre du petit parti Citoyens et Citoyennes dans un État. Je vous laisse donner le nom en arabe.
Mouatinoun wa mouatinat fidaoula.
Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Avec nous également Karim Émile Bitar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Alors, première question, un mois après la catastrophe du port de Beyrouth, quel sentiment domine aujourd'hui chez les Libanais? Ziad Majed.
Alors, je pense qu'il y a à la fois une colère, en plus de la fatigue, en plus de la volonté de tourner la page de cette classe politique et de ce système qui, depuis des décennies maintenant, produit des crises cycliques. Donc, il n'y a pas une nouveauté dans le sens où les Libanais et les Libanaises ont changé après le 4 août. Mais leur colère est devenue encore plus importante et ils sentent que ce qui s'est passé est un crime plus qu'un incident, un crime qui incarne tous les maux du comportement politique et de la gestion catastrophique qui, depuis des décennies encore, a vidé les caisses de l'État, a montré son irresponsabilité et finalement qui est incapable de proposer toute réforme et toute sortie de crise.
Karim Émile Bitar, est-ce que vous êtes d'accord avec Ziad Majed? Est-ce que la colère et l'amertume sont toujours aussi grandes ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un timide espoir de voir s'éloigner le bord du précipice?
Il y a eu en effet cette semaine avec la visite du président Macron un embryon d'espoir qui est né et c'est même allé un peu au-delà de l'espoir. Il y a même eu une sorte de transfert psychologique qui est né. Les Libanais sont tellement dépités par leur classe politique qui les a tellement déçus au cours de ces dernières années qu'ils ont vu un peu trop vite peut-être dans le président Macron une sorte de sauveur qui viendrait avec une baguette magique régler tous les problèmes du pays. Il y a même eu une pétition réclamant le retour du mandat français qui a obtenu plus de 60 000 signatures dans un petit pays comme le Liban. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Donc ça va peut-être un peu trop loin. On s'imagine que le président Macron est une sorte de roi thaumaturge qui va venir sur son cheval blanc mettre au pas tous les ennemis du Liban et régler la crise économique et financière permettre au Liban de se remettre sur selle. Donc oui, il y a un petit espoir, mais il y a en même temps toujours un sentiment d'impuissance chez les Libanais qui n'ont pas encore réussi à transformer l'essai politiquement. Ça fait près de 9 mois qu'a débuté cette révolution libanaise, que les Libanais protestent fréquemment dans les rues de Beyrouth sans véritablement avoir obtenu de résultats concrets. C'est cette oligarchie corrompue jusqu'à la moelle s'accroche au pouvoir, offre de temps en temps des petites concessions, des réformes cosmétiques par-ci par-là, mais nous sommes encore prisonniers de ce système communautaire.
On va y
revenir. Nous n'avons pas encore réussi à édifier un État digne de ce nom.
Nour Kilzi, est-ce que d'après vous, les Libanais ont envie d'un coup de pouce extérieur comme celui de Macron, ou est-ce qu'ils veulent se débrouiller tout seuls, trouver la solution à la crise par eux-mêmes ?
Je pense que ce qui se passe avec cette deuxième visite, c'est que les Libanais prennent conscience, même pour la petite part qui attendait un sauveur étranger, que la solution ne peut venir que de l'intérieur. En géopolitique, en politique, il y a une part symbolique, il y a la réalité. Et parfois, ces deux volets sont en phase. Et parfois, il y a un déphasage total. Et avec la deuxième visite du président français, qui était quand même très lourde en symbolisme, que ce soit la date, que ce soit la visite de Fayrouz, que ce soit le fait de planter un cèdre ou la patrouille de France aux couleurs du drapeau libanais, ce symbolisme-là était vraiment très décalé par rapport à la réalité. Et par exemple, même le vol de ces avions-là a été très mal vécu par les habitants de Beyrouth, encore traumatisés par l'explosion, donc ils ont eu peur. Et donc ce décalage-là, entre ce qu'on voit, ce qu'on dit et la réalité, le changement d'où il vient, le changement viendra clairement, si changement il y a, d'une responsabilité interne de s'organiser et de pouvoir imposer à cette classe politique une phase transitoire.
Ziad Majed, quand on évoque la descente aux enfers du Liban, on met en avant donc la responsabilité du confessionnalisme politique. À quand remonte ce système et pourquoi a-t-il entraîné corruption et clientélisme ?
Oui, il faut savoir que ce système remonte officiellement à 1926 avec la première constitution du Liban sous le mandat français qui consolidait certains aspects du système des millets ottomans qui était un système permettant aux communautés dans le mont Liban de gérer leurs affaires. Je parle de communautés religieuses évidemment. Puis en 1943, lors de l'indépendance, il y a eu le pacte national entre les deux hommes de l'indépendance, un maronite qui va devenir président de la première république et un sunnite premier ministre. Et la philosophie de ce système qu'on appelle le consociativisme essaye de partager le pouvoir en termes de quotas de représentation confessionnelle. Ce qui est sous-entendu, c'est que les Libanais n'avaient pas encore élaboré une citoyenneté commune, donc vaut mieux leur offrir des garanties afin que toutes les communautés, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, se sentent représentées au sein de ce système. Sauf qu'avec le temps, avec les changements démographiques, avec tout le contexte régional, la Nakba de la Palestine, les axes arabes qui se sont formés, il y a eu énormément de conflits qui ont commencé à se jouer sur la scène libanaise. Et les communautés ont cherché, à chaque fois qu'il y a un changement, à essayer de modifier la formule de partage de pouvoir. Et en plus, ce partage de pouvoir permettait également de partager les gains et les profits et la rente de l'État à travers des réseaux clientélistes qui appartiennent aussi aux communautés. En plus des aspects sociétaux, quand il s'agit de gérer les affaires du statut personnel, on a 15 lois différentes pour 15 communautés religieuses différentes. Et donc, ce système, à la fois après la guerre civile où il a été encore plus consolidé avec des notables politiques issus de la guerre même, des chefs de milices qui sont devenus les chefs de l'après-guerre et leur mentalité n'a pas évolué, la mentalité guerrière et la volonté non seulement de se partager les profits, les biens, la rente, les responsabilités au sein de l'État et de son administration, mais en plus de considérer qu'il faut arracher ses gains et ses profits en menant des alliances qui changent, en trouvant des formules et souvent en sollicitant les forces régionales qui à leur tour sponsorisent certains représentants de certaines communautés, l'Iran par rapport au Hezbollah, l'Arabie Saoudite pendant quelque temps par rapport au leadership sunnite autour de Hariri, etc. Et quand on voit la corruption rampante, quand on voit l'impunité, quand on voit que chaque chef de communauté ou de force politique communautaire protège les corrompus dans son camp parce qu'il est lui-même impliqué dans les cause de corruption, c'est un système qui, économiquement, politiquement, financièrement, ne génère que des crises aujourd'hui.
Alors, mardi soir, un millier de Libanais ont investi la place Tahrir à Beyrouth pour dire leur déception de voir Emmanuel Macron passer davantage de temps avec les leaders des partis responsables, selon eux, du chaos, plutôt qu'avec les acteurs de la révolution d'octobre. Nos envoyés spéciaux Nicolas Falaise et Nicolas Benita ont rencontré une jeune manifestante venue de Tripoli pour interpeller le président français.
Monsieur Macron, si vous voulez vraiment être à côté du Liban, Ne parlez pas à ces gens corrompus. Ils ne sont pas Libanais. Ils n'aiment pas le Liban. Nous sommes les Libanais. Nous voulons le Liban. Et maintenant, le Liban fête ses 100 ans. Durant ces 100 ans, les Libanais ne se sont jamais sentis chez eux. On veut finalement, aujourd'hui, construire un Liban, un vrai Liban, un vrai pays à nous. On ne veut pas partir. Mes amis tous sont en train de partir vivre à l'étranger à cause de ces gens qui nous ont volé notre avenir. Notre avenir, on le veut. Et si vous voulez être à côté de nous pour qu'on puisse avoir notre avenir, ne leur parlez pas. Ne les laissez pas nous faire un gouvernement comme celui d'avant, et les mêmes depuis 30 ans jusqu'à maintenant, qui nous ont volé notre argent, qui nous ont tués littéralement le 4 août, et qui sont en train de nous étouffer chaque jour.
Nour Kilzi, votre réaction à ce que dit cette jeune manifestante en colère?
Elle dit tout, parce que elle dit on veut pas partir, elle dit le gouvernement actuel va clairement avoir, même s'il change de façade, c'est le même mode d'opération de tout ce qu'on a vu avant. Et elle dit aussi qu'on n'a jamais eu un État dans ce pays, on n'a jamais été citoyen dans ce pays, on a toujours, et c'est un peu, ça rejoint aussi toute l'histoire, l'historique dévoilée déjà par Ziad, sur le fait qu'on est obligé d'appartenir à une communauté, donc on n'a pas de droit. Et je pense le plus important dans ce qu'elle dit, c'est le danger ou la phase critique dans laquelle se trouve le Liban, parce que oui, il y a une bonne partie de la population qui est contre ce système, qui a pu se libérer du confessionnalisme, mais c'est cette partie-là, aujourd'hui, au regard de la crise, et c'est elle qui va partir, donc et ça, c'est aussi, ce sera le résultat de ce même système, et c'est un peu le pari que font les partis confessionnels, les chefs confessionnels, en se disant, bon, on va s'acheter encore un peu de temps, on débloquera quelques petites aides, la classe moyenne va émigrer, et donc la consommation va baisser, et donc ça va, il restera dans le pays ceux qui sont très pauvres, et qu'on pourra acheter de nouveau, on pourra acheter les allégeances et on pourra s'adapter et continuer. Et ça, c'est le risque réel aujourd'hui.
Karim Yamil Bitar, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron fait preuve de naïveté par rapport à la situation politique au Liban? Est-ce qu'il n'a pas redonné, par exemple, une certaine légitimité à ses 9 leaders de formation politique, non seulement en discutant avec eux, mais en comptant sur eux pour mettre sur pied ce fameux gouvernement de mission, c'est-à-dire un gouvernement d'experts?
Alors, dans son ultime conférence de presse, il a clairement signalé que c'était véritablement la dernière tentative, la dernière chance qu'il donnait à cette classe politique. Je ne pense pas qu'il soit naïf. Il s'efforce de concilier une certaine exigence avec la bonne vieille réelle politique. Il connaît parfaitement l'exaspération de la rue libanaise. Il s'est entretenu avec beaucoup de Libanais issus de la société civile, avec quelques réformateurs, mais il estime qu'il ne peut pas non plus couper totalement les ponts avec les partis politiques qui ont été élus il y a 2 ans, qu'il ne peut pas venir au Liban et ne pas rencontrer le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et même s'entretenir avec un député du Hezbollah pendant quelques minutes. Et du point de vue du réalisme politique, on peut comprendre cette attitude. Ce qui fait que la France a aujourd'hui une certaine marge de manœuvre au Liban, c'est que c'est une des puissances internationales qui maintient un dialogue avec toutes les parties libanaises. Aujourd'hui, un représentant américain qui visite également le Liban, il n'aura pas cette même latitude de parler avec tout le monde. Il y a quelques nuances entre les positions françaises et américaine, même si ces deux pays coordonnent leurs efforts. La France est sur une ligne peut-être un peu plus conciliante aujourd'hui. Elle estime que parce qu'elle a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, mais parce qu'elle n'a aussi refusé de rompre totalement le dialogue avec le Hezbollah, elle est peut-être mieux placée pour permettre au Liban de passer par cette période de transition difficile. Donc, il a estimé qu'il fallait donner une dernière chance à ce système. C'est un pari extrêmement audacieux que prend le président Macron. Il y a de fortes chances que cela échoue. Il estime que ce gouvernement de mission devra réussir d'ici 3 à 6 mois au maximum. Autrement qu'il faudra faire un constat d'échec. Il l'a dit lui-même. Et que si c'est le cas, il faudra passer à la vitesse supérieure et prendre acte de la faillite de cette classe politique tout entière. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave et le Liban ayant besoin très vite de sortir de cette crise financière et d'enclencher un certain nombre de réformes, qu'il a estimé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et essayer de favoriser la formation de ce gouvernement de mission.
Ziad Majed, vous pensez que les politiciens libanais, toutes tendances confondues, cherchent effectivement à gagner du temps, qu'ils ont dit au président Macron ce qu'il avait envie d'entendre, mais qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs privilèges et à leurs habitudes?
Oui, certainement. C'est-à-dire, s'ils voulaient renoncer à leurs privilèges ou à leurs habitudes, ils l'auraient fait quand la crise financière a, je ne vais pas dire commencer, mais quand elle est devenue extrêmement sévère. Ils sont au pouvoir, pour certains, depuis 1992, donc dès le début de la fin de la guerre, la sortie de la guerre civile, et ils souhaitent se maintenir jusqu'au leur dernier jour. Donc ils veulent à la fois montrer à Emmanuel Macron, notamment à la veille de son arrivée, qu'ils sont prêts, qu'ils sont ouverts à un dialogue, qu'ils veulent aussi sauver la situation, mais ils considèrent que le facteur temps va finalement jouer en leur faveur. Certains, comme le Hezbollah, attendent les élections américaines pour savoir comment l'Iran va se positionner et est-ce qu'il va y avoir une nouvelle dynamique américaine dans la région. D'autres comptent sur le temps pour absorber le choc et la pression afin de reprendre main et continuer à gérer les affaires publiques comme ils l'ont fait avant. Et certains même attendent que l'argent commence à arriver, même si cet argent-là, pour le moment et théoriquement, va être mis dans des fonds qui seront sous supervision ou sous observation internationale. Mais il y a toujours des moyens pour détourner des fonds. Et cette classe politique-là, il faut le dire aussi, est très résiliente. Elle a de l'expérience, elle a su dans le passé digérer des chocs et des pressions pour émerger de nouveau et maintenir ce qu'on peut appeler le business as usual, les affaires comme courantes comme elles l'ont été avant. Et chaque chef communautaire ou chaque force communautaire compte aussi sur de nouvelles élections sans changer la loi électorale, tout en écartant une bonne partie des jeunes de l'accès au vote, puisqu'au Liban, l'âge de vote est à 21 ans et non pas à 18, ce qui fait qu'une grande partie des manifestants, par exemple, qui sont dans la rue et qui sont entre 18 et 21 ans, s'il n'y a pas un changement de la loi électorale, n'auront pas le droit de voter et ça affaiblit toute opposition et toute tentative à modifier le rapport de force. Et puis, il y a aussi le fait que le clientélisme et les décennies d'achat, de loyauté et de tentative d'élargir toujours la base sociale de cette classe politique peut jouer en leur faveur au moment où ils disent que voilà, nous sommes prêts pour organiser des élections. Donc le facteur temps est un des atouts que la classe politique va tenter de jouer ou d'utiliser, mais il peut aussi se retourner contre eux si jamais la mobilisation dans la rue continue, si il y a des pressions internationales, d'où l'importance que la France ne cède pas après ces deux visites et considère que voilà, il y a un nouveau gouvernement et on va laisser faire, parce que ce nouveau gouvernement, si jamais il est formé, il va surtout représenter les mêmes enjeux, les mêmes rapports de force, et les ténors de la classe politique vont se cacher derrière quelques inconnus ou quelques technocrates en disant que voilà, nous avons changé, la preuve, la bonne volonté, c'est ce gouvernement-là. Donc il faut rester prudent et maintenir la pression à la fois à l'intérieur du pays, à travers les manifestations, la mobilisation, la création de plateformes politiques, l'élaboration d'alternatives sérieuses à ce pouvoir corrompu, et à l'extérieur, ne considérant pas que le plus important a été fait et que maintenant c'est à cette classe politique de gérer sous nos yeux et juste sous quelques menaces. Non, il faut continuer à mettre la pression, sinon je ne vois pas comment les choses vont évoluer positivement.
Ziad Majed, Karim Emile Bitar, Nour Kilzi, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour débattre des moyens de faire émerger un nouveau Liban. Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Quel bilan tirer de la visite cette semaine à Beyrouth d'Emmanuel Macron? La classe politique libanaise est-elle vraiment prête à engager des réformes et à mettre fin au système confessionnel qui n'a fait qu'engendrer corruption, clientélisme et népotisme? Un nouveau Liban peut-il émerger du chaos? On en débat avec, en ligne de Beyrouth, le chercheur Karim Émile Bitar. En ligne de Paris, le politologue Ziad Majed. Et en studio à mes côtés, Nour Kilzi, doctorante en droit international. Nour Kilzi, est-ce que la nomination de Mustapha Adib au poste de Premier ministre est un signe de bonne volonté de la part de la classe dirigeante libanaise, ou est-ce que c'est un camouflet infligé aux manifestants qui ne veulent plus justement de la classe politique actuelle?
Je pense que la réponse, elle est très facile. Mustapha Adib incarne exactement le système qui a mené à toutes ces crises, parce que c'est en même... Le système, c'est quoi? C'était une coalition de chefs de guerre civile, de chefs communautaires, avec à côté d'eux des milliardaires aux richesses douteuses qui ont alimenté le système clientéliste. Et Mustapha Adib se retrouve être, indépendamment de ses compétences académiques ou diplomatiques,
Oui, parce qu'il a été en poste 7 ans à Berlin.
Exactement. Et donc, indépendamment de ses compétences personnelles, c'est un rapproché de Nabih Berri, donc un des chefs chiites, et un rapproché aussi de Najib Mihati, qui a déjà été Premier ministre et qui est un milliardaire tripolitain, alors qu'à Tripoli, un habitant sur deux vit dans la pauvreté. Donc, bien sûr que c'est l'incarnement du même système et ce n'est pas un signe de changement.
Le week-end dernier, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le président libanais, Michel Aoun, chrétien, le président chiite du Parlement, Nabih Berri, se sont dit ouverts à un nouveau pacte politique favorable à un état civil. Est-ce que vous croyez, tous les trois, à ces engagements en faveur d'un état laïque, ou est-ce que ce sont des paroles en l'air? Karim Émile Bitar.
Je pense que c'est quelque chose à quoi nous aspirons tous les trois, mais je ne pense pas que nous puissions donner crédit à ces discours quand ils émanent de ces personnalités au pouvoir depuis des décennies qui mentent comme ils respirent et qui n'y croient pas du tout. Nous sommes dans une phase de l'histoire du Liban où le pays a désespérément besoin, en effet, d'un nouveau pacte politique, d'un nouveau pacte social, où ce système communautaire a bien évidemment montré ses limites. Mais cette refonte politique doit s'accompagner d'un renouvellement de la classe politique qui est totalement discréditée. Ce ne sont certainement pas les leaders communautaires aujourd'hui au pouvoir qui vont soudainement se réinventer en leaders d'un nouvel état civil et nous mener vers les voies d'un système laïque et républicain. Je pense qu'il s'agit plus de discours destinés à duper les masses, à duper la communauté internationale. Je n'y vois absolument aucune sincérité. Je pense que c'est bien évidemment quelque chose qui est en phase avec les aspirations de la jeunesse, mais personne ne croit un traître mot de ce qui peut émaner de ces personnalités-là.
Ziad Majed, le président français a conditionné l'aide financière dont le Liban a besoin à un échéancier des réformes, donc à des résultats concrets. Est-ce que ça peut pousser la classe dirigeante à réagir, ou plutôt à agir véritablement?
Alors, tout en étant d'accord avec ce qu'a dit Karim Émile Bitar et Nour avant, je pense que d'un côté, il faut pas croire les responsables libanais quand ils proposent aujourd'hui, après des décennies d'exercice de pouvoir, des idées de réforme. Et ces chefs politiques-là, dont la raison d'être est le confessionnalisme, ne sont certainement pas prêts à proposer un état laïque ou un état civil. La même chose s'applique sur le chantier des réformes. Les réformes veulent dire la fin de ce système-là, ou disons la fin de ce qui permet à ces mêmes chefs politiques de préserver le pouvoir, d'instrumentaliser le confessionnalisme pour alimenter à la fois les divisions et regrouper autour d'eux et créer des solidarités mécaniques dans leur communauté. Donc ceux qui n'ont pas réformé pendant plus de 40 ans maintenant ne peuvent pas réformer juste parce que ils sont sous pression d'Emmanuel Macron et parce que l'aide économique est conditionnée. Par contre, ils peuvent, esthétiquement parlant, lancé quelques chantiers, évoqué de nouvelles nominations de personnes qui ne sont pas connues par rapport au dossier de corruption. Ils peuvent également respecter certains engagements s'agissant de l'électricité du Liban, s'agissant de la reconstruction du port, où de toute façon, il va y avoir une supervision internationale. Et donc, ils peuvent, pour revenir à la question, ils peuvent réformer par obligation et sous contrôle international dans certains secteurs, mais les réformes politiques et à ce que les Libanais et les Libanaises en leur grande majorité aspirent pour sortir de la crise maintenant et pour reconstruire un autre Liban, ils sont très loin de là. Au contraire, ça sera comme si on les invite à commettre un suicide collectif et ils ne sont pas prêts à le faire, évidemment.
Nour Kilzi, est-ce que l'heure de vérité sur les véritables intentions de la classe politique libanaise sonnera quand on saura, par exemple, qui est nommé à la tête de l'autorité de lutte contre la corruption?
Honnêtement, je ne pense pas et je pense que cette autorité-là, c'est une parmi toutes les autres commissions qu'on a qui lutte contre cette fameuse corruption que tout le monde dénonce et que personne n'arrive à toucher. Donc je pense que c'est aussi, même si ça figure parmi les réformes annoncées par le président Macron, mais je pense que c'est malheureusement c'est vide de sens dans un pays comme le Liban, parce que ça voudrait dire quoi aujourd'hui? Même le terme de réforme, je pense qu'il n'est pas le terme exact, parce que réformer un secteur, c'est pas qu'il y a quelques petites failles et qu'il faut régler. Aujourd'hui, par exemple, même pour l'électricité, il n'y a pas de dollars dans le pays. On a plus de 20 usines qui ne fonctionnent pas, toutes réparties sectoriellement, d'une manière sectaire. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Quelle région on alimente? On ne pourra pas avoir de l'électricité 24 sur 24. On est dans une phase où il y a des pertes avouées. On a besoin d'une vision, d'un projet pour le Liban, pas de simples réformes que cette classe certainement n'a pas, ne pourra pas envisager, ni certainement pas faire.
Karim Emil Bitar, le problème, est-ce que ce n'est pas le fait qu'aucun leader n'ait émergé de la mobilisation citoyenne depuis le mois d'octobre dernier?
C'est un des problèmes, en effet. Comme les révolutions arabes de 2011, le mouvement de protestation libanais était quelque peu acéphale. C'était un mouvement sans leader, ce qui, dans un premier temps, était quelque chose de plutôt positif. Ça permettait de rompre, justement, avec cette idée trop dominante dans le monde arabe de l'homme providentiel, de rompre avec le mythe du sauveur, avec l'idée que c'était un seul homme fort qui allait sauver le pays du marasme. Ça a fait émerger un certain nombre de partis citoyens, de nouveaux partis réformateurs, ça a fait émerger un certain nombre de mouvements sociaux, de nouveaux syndicats, etc. Donc, dans un premier temps, c'était quelque chose de positif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire émerger de vastes coalitions où tous ces nouveaux partis citoyens, tous ces nouveaux mouvements pourraient travailler ensemble, pourraient faire émerger de nouvelles figures qui parleraient en leur nom. Pas forcément une seule figure, car ce sera très difficile au Liban de faire émerger une seule figure, un seul leader, mais de parler d'une voix commune avec une plateforme commune. Alors, bien évidemment, ce ne sera pas aisé. C'est un pays où les égos jouent un rôle un peu trop important, où il y a toujours des petites querelles de chapelles et de clochers. Mais c'est un des enjeux des mois à venir que de construire une opposition qui parle un discours commun et qui transcende ces divisions intestines. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est d'un côté cette division de l'opposition, mais c'est en phase d'être résolu. Il y a déjà d'énormes progrès qui ont été accomplis au sein des deux derniers mois. Et surtout, c'est ce à quoi Nour a fait allusion dans la première partie de l'émission, c'est cette vague d'émigration à laquelle nous risquons d'assister. Le Liban est déjà l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Si cette émigration devait se poursuivre, cela sonnerait le glas des espoirs de démocratisation et de faire émerger une citoyenneté. C'est pourquoi il est très important que cette coalition des forces de l'opposition émerge au plus vite, avant que ce système clientéliste ne reprenne ses bases, en voyant les classes moyennes quitter le pays et en s'appuyant sur une classe de nouveaux pauvres qui, n'ayant plus rien à perdre, se précipiterait de nouveau dans les bras de cette classe politique clientéliste corrompue qui pourra cette fois acheter les voix pour une poignée de pain, littéralement, alors que dans le passé, il fallait payer au moins quelques centaines de dollars. Aujourd'hui, ce serait pour beaucoup moins que ça.
Ziad Majed, qui pour forcer la classe dirigeante au pouvoir à mettre fin à ce fameux système confessionnel, qui pour l'acculer à bâtir ce nouveau pacte social dont on parlait tout à l'heure?
Alors, je pense que c'est une mission extrêmement difficile. Il y a à la fois aujourd'hui un rapport de force dans le pays qui n'est pas encore tout à fait favorable à un grand changement. La classe politique dirigeante, protégée par le Hezbollah, surpuissant et armé, n'est pas prête à céder. Il y a, comme il a été dit, déjà des mouvements sociaux, des plateformes, des jeunes partis qui essayent de s'organiser pour affronter la classe politique électoralement quand les échéances électorales arriveront. Et puis il y a les interventions ou les initiatives politiques qui viennent de l'extérieur et qui souhaitent mettre de la pression pour arracher quelques réformes et quelques nouvelles politiques dans ce secteur ou dans l'autre, ce qui reste évidemment pas suffisant pour avoir le changement désiré par la majorité des gens. Donc je pense que c'est un long processus, c'est un combat. À la fois la société civile libanaise dans toute sa diversité doit le mener et en même temps la pression de l'extérieur, notamment des acteurs européens, puisqu'ils sont plus crédibles vu les positions américaines pro-israéliennes, vu les positions des acteurs de la région, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui sont plutôt pour le soutien d'un clan spécifique, vu que l'ancien occupant autre Israël, c'est-à-dire le régime syrien de Liban, a ses autres calculs. Donc pour la France, par exemple, et pour d'autres acteurs européens, pourquoi ne pas menacer les ténors de la classe politique directement, qui ont acquis des biens d'une manière illégale, qui ont des dépôts dans les banques suisses, françaises ou dans les paradis fiscaux, bien que les Libanais et les Libanaises aujourd'hui n'ont même pas accès à leur compte bancaire, à leur retraite, à leur salaire, à les économies du travail qu'ils ont fait pendant des années et des années. Donc il faut trouver à la fois des mécanismes de pression, même sur des individus, et en même temps continuer la lutte dans le pays pour modifier le rapport de force. Et il y a la diaspora libanaise qui doit aussi se mobiliser davantage pour aider les gens sur place qui se battent depuis des mois maintenant contre cette classe politique.
Karim Émile Bitar, est-ce que le coup de sang du président Macron mardi soir à l'encontre du journaliste du Figaro, Georges Malbruno, a fait du bruit à Beyrouth? Il faut rappeler que notre confrère avait affirmé dans un article du 31 août qu'Emmanuel Macron avait le 6 août menacé d'imposer des sanctions justement aux responsables libanais qui bloqueraient les réformes. Irresponsable, grave, non professionnel, a lancé Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça traduit selon vous, cette réaction pour le moins très vive du président Macron à l'encontre d'un journaliste qui connaît bien la région?
Cette affaire n'a pas encore été tout à fait éclaircie, plusieurs versions circulent. C'était une des rares fausses notes dans ce voyage du président Macron. Ça montre jusqu'à quel point cette affaire des sanctions est sensible juridiquement. Et cette affaire du dialogue entre la France et le Hezbollah est une affaire sensible en matière de politique intérieure française également. Il y a deux articles de Georges Malbruno qui sont en cause, pas uniquement un seul article, l'article sur la France face au chef de clan libanais et l'article sur le pas de danse avec le Hezbollah. Je pense que ce coup de colère du président Macron montre jusqu'à quel point cette question est extrêmement sensible, non seulement dans les rapports franco-libanais, mais également sur la scène politique intérieure française.
Ziad Majed, est-ce que l'approche d'Emmanuel Macron, plus pragmatique à l'égard du Hezbollah que la position américaine, très idéologique, peut porter ses fruits à plus ou moins long terme?
On l'espère bien qu'elle porte ses fruits parce que, en tant que Libanais, nous sommes confrontés à un véritable dilemme s'agissant du Hezbollah. À la fois, il est impossible aujourd'hui de trouver une solution aux crises du pays tant que le parti reste puissant et reste attaché idéologiquement, militairement et politiquement à l'Iran qui gère sa stratégie régionale et qui utilise le Hezbollah dans cette stratégie. Le Hezbollah aujourd'hui a 10 000 combattants en Syrie, par exemple, et
cela va à l'encontre de la volonté d'une grande partie des Libanais. Il se bat pour protéger le régime syrien et cela n'a rien à voir avec la résistance contre l'occupant israélien qui lui a donné une légitimité populaire jusqu'en 2000, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'occupation, puis en 2006 durant la guerre avec Israël. Il y a un grand problème avec le parti et en même temps, il n'y a pas de solution sans ce parti-là, vu encore une fois le fait qu'il représente la majorité des chiites libanais, vu le système clientéliste et confessionnel où il est comme les autres partenaires dans la gestion des services de la communauté, etc. Donc il faut avoir une approche pragmatique et évidemment l'approche américaine n'aide pas, mais il faut en même temps ne pas avoir des illusions parce que le Hezbollah attend comme l'Iran un changement à Washington pour se repositionner ou pour comprendre la nouvelle configuration moyen-orientale. Donc, dialoguer avec le parti, oui, mais avoir l'idée aussi que dans le système libanais et dans les réformes désirées ou dans le changement désiré, un parti surpuissant, surarmé, ne peut pas être un facteur positif.
Une dernière question à tous les trois. Emmanuel Macron a donné 3 mois aux dirigeants libanais pour tracer un nouveau cap. Dernière chance pour le pays, a dit le président français. Il a promis de revenir une 3e fois en décembre pour vérifier si les choses avancent. À votre avis, à tous les trois, qu'est-ce que le président Macron va trouver en décembre quand il va revenir? Est-ce que les choses en décembre auront bougé, auront avancé? Karim?
Il va probablement trouver un pays qui aura effectué quelques vagues réformes cosmétiques, mais certainement pas des réformes systémiques et structurelles, car cela signifierait l'arrêt de mort de cette classe politique qui n'est pas suicidaire. Le Moyen-Orient est un cimetière pour les politiques étrangères idéalistes. Monsieur Macron est en train de tenter au Moyen-Orient ce qu'il a tenté en France, la politique du « en même temps », essayer de faire un jeu d'équilibre entre l'idéalisme et la réelle politique. Il est à craindre que cela ne vienne se fracasser sur les rives de la Méditerranée.
Ziad Majed?
Oui, je partage cette analyse. Je pense qu'il prend des risques si jamais il mise sur un succès diplomatique clair au Liban, mais il peut toujours considérer qu'il a bousculé la classe politique, qu'il l'a obligé à former un nouveau gouvernement si jamais d'ici là ce gouvernement est formé et prend l'aval du Parlement. Il peut aussi évoquer les espoirs des Libanais, qu'il a tout tenté, mais que finalement, si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas de sa responsabilité et quelques sanctions peut-être pourraient tomber sur des responsables désignés. Je le répète encore, je pense que c'est aux Libanais et aux Libanaises de maintenir la mobilisation dans la rue, de maintenir la pression sur cette classe politique afin de la pousser, non pas à réformer, parce que je suis tout à fait d'accord, tout ce qu'elle fera va rester dans l'ordre cosmétique, mais maintenir sous pression tout en préparant l'alternative capable à long terme de la battre et de tourner cette page triste de l'histoire du pays.
Nour Kilzi? Je partage aussi les analyses. Politiquement, c'est sûr que le gouvernement sera ce qu'il sera, mais je pense aussi que ce qui est plus grave, c'est qu'on va probablement, si on continue comme ça, la pire manière de gérer une crise, c'est de ne pas la gérer, et cette bande s'est révélée incompétente de prendre les décisions qu'il faut prendre, qu'il faut assumer maintenant pour arrêter l'inflation, pour pouvoir avoir une gestion équitable et juste et arrêter le désespoir des Libanais. Et je pense que, en fait, la crise va se prolonger avec des conséquences néfastes et encore plus de difficultés à imaginer l'après.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Ziad Majed, politologue, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Vous avez publié « Dans la tête de Bachar el-Assad » paru chez Actes Sud en 2018, un livre coécrit avec Farouk Mardambe et Soubhi Hadidi. Karim Émile Bitar, directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth et chercheur rattaché à l'IRIS et à l'ENA. Et puis Nour Kilzi, doctorante en droit international à Paris 1 et membre du parti Citoyen et Citoyenne dans un État, un petit parti qui défend un État basé sur la citoyenneté et non sur l'appartenance confessionnelle. Merci à Pauline Leduc qui a réalisé cette émission. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.